matin, je vais nous proposer des textes. Toute la semaine, nous étions là en train de parler sur la parole de Dieu. Socle énergique pour la transformation de l'homme et la réforme de la société. Je nous propose des textes pour clôturer ces séminaires. Le premier texte, c'est Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, un passage que plusieurs connaissent. Et le deuxième texte, c'est Actes des Apôtres chapitre 11, versets 25 à 26. J'aimerais commencer le message de ce matin par une question bizarre. Une question à laquelle je connais déjà la réponse, mais je vais quand même la poser. Y a-t-il en cet endroit une personne qui aimerait me dire, prédicateur, je suis païen? Qu'il élève juste sa main, nous allons le voir. Un païen, est-ce qu'il peut élever la main? Franchement, je savais qu'il y aura personne qui va élever la main. Je vais reposer la question autrement. Y a-t-il en cet endroit une personne qui aimerait dire, prédicateur, je suis chrétien, qu'il élève la main? Les chrétiens. Je veux voir les chrétiens. Élevez bien vos mains, je veux vous voir. Maintenant, il y a d'autres qui n'ont pas élevé, et païens, et chrétiens. Ceux qui sont nés dans l'assemblée provinciale. C'est là qu'ils sont nés. Qu'est-ce qui peut élever la main? Franchement, je savais que tout le monde va élever la main pour dire, je suis chrétien. Je m'attendais à cela. Personne n'accepte d'être appelé païen. Et j'imagine si tu vois quelqu'un en cours de route, tu l'appelles païen, il risque de te frapper. Ou de croire que tu l'as injurié. Il y a même d'autres personnes, quand tu lui dis quel est ton nom, la première des choses, moi je suis chrétien. C'est comme si c'est ça son nom. Et d'autres ils vont même plus loin. Quand tu l'appelles quel est ton nom, il commence par frère. Moi c'est frère Benjamin. Permettez que j'en parle. Il y a même des pasteurs, des révérends pasteurs. Quand tu les appelles, tu dis, frère Vincent, la première des choses, il te demande, tu as oublié le révérend pasteur où? Je me pose la question, avant d'être pasteur, est-ce qu'il n'est pas d'abord frère? On a l'impression que si on t'appelle frère, c'est comme si on t'a diminué. Nous sommes d'abord frères dans le Seigneur, ou sœurs dans le Seigneur. Ce matin, le Seigneur m'a envoyé nous parler sur l'identité chrétienne. Dis à ton voisin, l'identité chrétienne. Ensemble, nous verrons l'origine du mot chrétien. D'où est venu le mot chrétien? D'aide, nous verrons qu'est-ce que le mot chrétien ne veut pas dire. Et enfin, si le temps nous permet, nous allons terminer notre message en martelant sur la définition, la signification, ce que le mot chrétien veut dire réellement. Permettez déjà, avant même que je puisse expliquer les textes que je nous ai annoncé, d'affirmer que plusieurs croient être chrétiens alors qu'en réalité ils ne le sont pas. Plusieurs s'appellent chrétiens alors en réalité qu'ils ne le sont pas. Ce matin, la seule question que je nous pose, sommes-nous réellement chrétiens? L'église d'aujourd'hui est en baisse. Elle est en difficulté car elle est remplie par des personnes, des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne vivent pas la chrétienté. Nous avons beaucoup de chrétiens, ils disent, je suis chrétien, je prie à Goma Ouest, je prie à la source, je prie, je ne sais pas, dans quelle assemblée. Mais est-ce que réellement nous vivons la vie chrétienne? Frères et sœurs, j'aimerais nous le dire et le redire tout au long de ce message. La vie chrétienne n'est pas un nom. La chrétienté, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas non plus un slogan. La chrétienté est une vie. Et il est important que nous quittons du slogan de ces affaires où nous nous appelons chrétiens, mais en réalité, nous ne vivons pas la vie chrétienne. Retenez rapidement ce qui suit. La première des choses que j'aimerais que vous puissiez retenir ce matin, c'est que les mots ou appellations chrétiens étaient non attribués aux disciples de Christ vers l'an 43 après Jésus-Christ. L'an 43 après Jésus-Christ, les disciples se sont vus être appelés chrétiens. Et c'était dans une petite ville appelée Antioche. Si vous lisez dans Actes chapitre 1, verset 8, Christ veut rentrer auprès de son Père. Et il prend le temps de s'entretenir avec les disciples. Écoutez ce qu'il va leur dire. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins, d'abord à Jérusalem, puis en Galilée, dans la Samarie, et dans les extrémités de la terre. Mais lorsque vous lisez Actes des Apôtres chapitre 1 jusqu'à Actes des Apôtres chapitre 7, on a l'impression que les disciples oublient la mission du maître. Ils oublient qu'ils doivent être témoins, non pas seulement à Jérusalem, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Des Actes 1 jusqu'à Actes 7, La Bible nous montre des disciples qui se cantonnent au niveau de Jérusalem. Ils restent à Jérusalem. Certes en train de faire l'œuvre de Dieu. Certes en train de prêcher l'évangile. Certes en train de chercher la face de Dieu. Mais quelque chose survint dans Actes 8, verset 1. La Bible nous parle de la persécution de l'Église. L'Église a été persécutée. Et au moment où l'Église était persécutée, on commence par tuer même un leader qui va mourir. Alors que l'Église va se réveiller. Regardez ce qui se passe. Au moment où il y a persécution, les disciples décident de se sauver la vie, de la peau. Et j'aime une chose, quand ils sont en train de fuir pour se protéger, ils faisaient un exercice que j'aime. La Bible dit, ils allaient de ville en train de faire quoi? D'évangéliser. J'aimerais que vous puissiez comprendre. Ils étaient réfugiés, mais réfugiés en train de faire quoi? De prêcher l'évangile. Et pendant qu'ils étaient en train de prêcher l'évangile, il y a des âmes qui revenaient au Seigneur. Il y a des personnes qui se convertissaient. C'est alors que la Bible nous parle d'Actes 11, un groupe de personnes, pas des leaders, mais un groupe de personnes, des chrétiens qui ont fui à Antioche. Arrivés à Antioche, ils vont commencer à prêcher, jusqu'à ce que les gens devenaient de plus en plus nombreux. La Bible dit, ce groupe a fait appel à Barnabas. Ils ont dit, Barnabas, viens vers nous, le travail est immense. Je peux m'imaginer que lorsque Barnabas venait, il s'attendait à avoir un petit groupe de gens. Lorsqu'il arrive à Antioche, il fut surpris de voir le nombre de gens. Et j'aime ce que Barnabas a fait. Je prie que nous ne soyons pas distraits. Suivez les messages, s'il vous plaît. Lorsque Barnabas arrive à Antioche, il voit qu'il y a un grand nombre de gens. Regardez ce que Barnabas va faire. Il va aller appeler Saul. Je vous pose la question, est-ce que Barnabas n'était pas à mesure de prêcher seul? Hein? Est-ce qu'il n'était pas à mesure de prêcher seul? Il pouvait le faire. Mais Barnabas a compris, je peux prêcher seul. Mais si je prêche encore avec Paul, nous allons faire un grand travail. J'aimerais insister et dire une chose ici. La maturité spirituelle, ce n'est pas faire partie des baptistes ou des pentecôtistes. La maturité spirituelle, ce n'est pas prêcher. La maturité spirituelle, c'est d'être à mesure de découvrir la grâce que Dieu a placée dans quelqu'un d'autre. C'est d'être à mesure d'apprécier que moi, je peux chanter, mais lui, il peut prêcher. Moi, je peux prêcher, mais lui, il peut faire le protocole. Frères et sœurs, ce qui nous tue dans l'église aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas des personnes matures qui acceptent la grâce qui est dans d'autres. J'aime cette histoire de Jésus-Christ et de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lorsqu'il regarde Jésus, écoutez son langage, il dit, je ne suis pas digne de délier ses sandales. En d'autres termes, Jésus est plus grand que moi. Mais si vous lisez dans Matthieu 11, au moment où Jean-Baptiste est arrêté, il est en prison, il envoie ses disciples aller demander à Jésus. Est-ce lui ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Moi, si j'étais disciple de Jean, j'allais lui dire, c'est toi qui nous l'as présenté. Tu nous as dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La Bible dit, lorsqu'ils ont vu Jésus a dit, allez dire à Jean-Baptiste, le royaume des cieux est prêché, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, errez pour qui je ne serai pas un sujet. Jean-Baptiste n'avait pas besoin d'une telle réponse. Lui, il avait besoin qu'on lui dise, est-ce que tu vas sortir en prison? Parce qu'il était innocent en prison. Mais si vous lisez la Bible, il dit, lorsque les disciples sont partis, Jésus s'est mis à prêcher. Et sa prédication avait pour thème Jean-Baptiste. Il dit, qu'est-ce que vous allez voir dans le désert? Est-ce un homme habillé par les habits précieux? Non, ils sont dans les palais royaux. Qu'est-ce que vous allez voir dans le désert? Et écoutez dans sa prédication. Il dira quelque chose qui m'explique, il dit, de tous les hommes qui sont nés des femmes, il n'y a jamais eu de plus grand que... Alors Jésus est né de qui? Je comprendrais si Jésus allait dire de tous ceux qui sont nés des hommes. On allait dire, il parlait de l'homme masculin. Mais il dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a jamais eu de plus grand que... Ah Seigneur, donne-nous des gens dans l'église qui peuvent vanter le mérite des autres. Nous avons un problème dans l'église d'aujourd'hui, c'est que nous sommes là pour nous condamner. Nous ne voyons pas ce qui est dans l'autre. Nous ne voyons pas la grâce qui est dans l'autre. On pense être meilleur. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu penses être meilleur, c'est que tu es un bébé. Et ce fils à Antioche, la Bible dit, Barnabas et Paul ont pressé ensemble pendant une année. Et après une année, les gens d'Antioche ont dit, ces gens, ils ont une qualité de vie. Ils ressemblent à quelqu'un. Et ils ont appelé les disciples comment? Des chrétiens. La deuxième chose que j'aimerais que vous puissiez noter, c'est que s'il y a un mot rare dans la Bible, un mot très rare dans la Bible, c'est le mot chrétien. Le mot chrétien dans la Bible est cité 3 fois. Et les seules 3 fois qu'il est cité dans la Bible, il n'est cité que dans le Nouveau Testament. Encore ce qui est bizarre, le 3 fois que le mot chrétien est cité dans la Bible, 2 fois il sort de la bouche des païens et 1 seule fois de la bouche des chrétiens. Je dis le mot chrétien est rare dans la Bible. Il est cité 3 fois et les 3 fois, 2 fois il sort de la bouche des païens et 1 seule fois de la bouche d'un croyant. La première fois que le mot chrétien est cité dans la Bible, c'est dans Actes 11, verset 26. Et là encore, ce sont les païens qui ont vu les disciples mener un comportement de vie et qui se sont dit, nous les appelons chrétiens. Quand ce mot sort pour la première fois de la bouche, ça ne venait pas des croyants, ça venait des païens, des gens mondeux, des gens qui ne connaissaient pas Jésus et qui ont dit, ces gens, nous devons les appeler comment? Chrétiens. La deuxième fois que ce mot est cité dans la Bible, c'est dans Actes 11, verset 26. L'apôtre Paul est accusé injustement. Que dis-je? La deuxième fois, c'est dans Actes 26, verset 28. Actes 26, verset 28. Actes 11, verset 26, c'est la première fois. La deuxième fois, c'est Actes 26, verset 28. L'apôtre Paul est accusé injustement. Et il est appelé à comparaître devant le roi Agrippa, certainement Agrippa 2. Il doit plaider son innocence. Mais lui, au lieu de parler de son cas, il s'est mis à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il a commencé à parler sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il a commencé à parler sur le pardon du péché par Jésus-Christ. Et quand il parlait ainsi, le roi Agrippa va réagir. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader à devenir qui? Chrétien. C'est encore un païen qui ne connaît pas Jésus. Il dit, la manière dont tu es en train de parler, tu risques de me pousser à devenir, hein? J'aime beaucoup la réponse de Paul au verset 29. Il dit, que ça soit bientôt ou que ça soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous vous deveniez tel que je suis à l'exception de ces chaînes. Les désirs, les soucis de Paul, ce n'est pas de sortir de la prison. Les soucis de Paul, ce n'est pas de défendre sa cause, mais les soucis de Paul, que les gens deviennent chrétiens. Paul, est-ce que tu ne vois pas que tu seras amené en prison? C'est l'occasion de te défendre. Il dit ici, je n'aurai jamais cette occasion de parler à un roi. Comme je trouve une occasion de parler au roi, laisse-moi parler, prêcher l'évangile. Seigneur, donne-nous des gens qui sont comme Paul, des gens qui sont prêts à passer leurs intérêts, les intérêts de Dieu au-devant de leurs intérêts. Aujourd'hui, nous avons un problème. Les chrétiens ne savent plus saisir les opportunités. Paul a regardé et s'est dit, il y a beaucoup du monde ici, je n'aurai jamais cette occasion. Permettez-moi que je parle de Jésus. Et il a commencé à parler, jusqu'à ce que le roi Agrippa qui l'écoutait, il dit, mais j'avais affaire à quelqu'un qui va se défendre, mais il ne se défend pas. Il est en train de parler de son maître. En attendant de parler de ces choses, je risque de me convertir. Arrêtons d'abord. Qu'il arrête de parler, parce que je risque d'être comme un chrétien. La troisième fois que ce mot ressort dans la Bible, et pour la première fois, c'est dans la bouche d'un croyant. Et je comprends qu'il n'y a que lui qui pouvait en parler. C'est l'apôtre Pierre. Dans 1 Pierre 4, verset 16. Ce qui m'étonne, c'est les circonstances dans lesquelles Pierre parle du mot chrétien. J'aurais voulu qu'il parle dans d'autres circonstances, mais pas dans ces circonstances. Dans 1 Pierre, il dit ceci. Mais si quelqu'un souffre, comme qui? Comme chrétien, qui n'en est point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Il montre la valeur, le poids de ses noms. Il dit, si tu souffres en qualité de chrétien, avec l'identité de chrétien, sois-en fier. Parce que ce nom n'est pas donné à n'importe qui. Je suis fier d'être chrétien. J'aime souvent le dire, la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est de connaître Christ. Et je ne le regrette jamais. Je suis fier de mon Jésus. Je suis fier de crier, de citer que je suis chrétien. Que des gens ici ils ne sont pas fiers. Ils sont venus à Goma West, mais ils ont laissé leur vécu très loin. Parce qu'ils se disent, si on découvre que je suis là-bas chez les protestants, C'est fini pour moi. Aide-moi à dire à ton voisin, sois fier d'être chrétien. Dis-lui encore, sois fier d'être chrétien. Qu'est-ce donc la crainteté? Que veut dire en réalité chrétien? Avant de pouvoir dire ce que la crainteté est, j'aimerais nous parler à l'eau et là ce que la crainteté n'est pas. Parce que beaucoup de gens pensent être chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Le mot chrétien ne veut pas dire quatre choses. Quand vous lisez Matthieu 7, versets 21 à 23, ainsi que Actes des Apôtres 11, verset 26, j'ai compris que le mot chrétien ne veut pas dire quatre choses. La première des choses, c'est que la crainteté n'est pas juste une simple appellation. Dis à ton voisin, la crainteté n'est pas juste une simple appellation. Mon frère, ma soeur, le fait de vous appeler chrétien ne fait pas de vous chrétien. Quelqu'un peut dire je suis chrétien et ne pas être chrétien. Ce n'est pas parce que vous avez tous élevé les mains que vous êtes chrétien. Le fait de brandir les mots chrétien ne fait pas de vous chrétien. Et je vais même vous choquer ces jours et vous dire que les disciples ne se sont jamais appelés chrétiens. Ce sont les gens qui les ont appelés chrétiens. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens dans nos églises qui s'appellent chrétiens, mais qu'on ne peut pas appeler chrétiens. Nous avons des maris qui disent, moi je suis chrétien, mais est-ce que ta femme peut t'appeler chrétien? Nous avons des femmes qui disent, moi je suis chrétienne, est-ce que ton mari peut t'appeler chrétien? Et c'est ça le problème. Nous avons beaucoup de gens qui s'appellent chrétiens. Ils brandissent le nom des chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu t'appelles chrétien que tu l'es en réalité. Frères et sœurs, le temps est venu où nous devons cesser de dire que je suis chrétien. Le temps est venu où nous devons manifester la vie de Christ par nos actes. Ça ne sert à rien de crier partout, je suis chrétien. J'ai vu les gens qui disent, moi je suis né de nouveau. C'est pas ça. Il faut que les gens voient la vie et qu'eux-mêmes t'appellent chrétien. Aide-moi à poser à ton voisin, dis-lui, est-ce que moi je peux t'appeler chrétien? Dis-lui bien, demande-lui, est-ce que moi vraiment je peux t'appeler chrétien? Il y a même quelqu'un qui a du mal d'adresser la parole à celui qui est à gauche et à droite parce qu'il se dit, ah, il est tout sauf chrétien. Frères et sœurs, laissez que les gens vous appellent chrétien. Vous ne vous appelez pas chrétien. Laissez que les gens voient et qu'ils disent, mon voisin c'est un chrétien. Que les gens qui viennent à l'église, nous les appelons chrétiens. Mais les voisins ne les appellent jamais chrétiens. Jamais. Des parents qui disent, nous sommes des chrétiens, mais que les enfants ne peut pas appeler qui sont chrétiens. La crainteté, ce n'est pas une appellation. La deuxième des choses, c'est que la crainteté n'est pas le fait d'aller à l'église. Ah, là, j'aimerais beaucoup préciser et insister même. Détrompez-vous, mes frères et sœurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient prier à Goma Ouest qu'il est chrétien. Ceux qui sont venus une fois à la source au débit, lorsque tu es entré dans l'église de la source, la première phrase qui t'accueillait sous le mur, c'était... Éteignez vos téléphones. Prenez soin de vos téléphones et de vos sacs à main pour aider les protocoles. En réalité, qu'est-ce que l'église voulait dire? Il voulait dire, tout celui qui vient prier avec nous ici n'est pas chrétien. Alors, ne nous créez pas de problèmes avec les protocoles et les diaconies. Éteignez bien vos téléphones, gardez-les jalousement. Que les gens qui viennent à l'église avec leur téléphone, mais ils rentrent sans téléphone. Pourquoi? Parce que tout le monde qui vient à l'église n'est pas... Et même maintenant, il y a quelqu'un qui est là, il est en train de regarder, qu'est-ce que je vais voler? C'est un païen. Et à cette personne, j'ai dit, tu dois donner ta vie à Christ. Aujourd'hui, c'est toi que je prêche. C'est à toi. Et tu me regardes comment c'est à toi. Que des jeunes sœurs qui disent, non, je vais épouser ces garçons-là parce qu'ils prient même église avec moi. Tu vas mourir. Qui t'a dit que parce qu'ils prient même église avec toi, il est chrétien? C'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est... Jésus dit ceci dans Matthieu 7, verset 21. Tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume. Alors, quand ils appellent Seigneur, c'est qu'ils ont eu le temps de se réunir quelque part. Ils ont eu le temps de célébrer, de faire les kits. Frères et sœurs, c'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est chrétien. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est pas parce que tu viens à l'église que tu es chrétien. Maintenant, le pasteur Vincent aura un problème parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre des notes. Chaque fois qu'il ne viendra pas à l'église, il dira, pasteur, ce n'est pas parce que je ne viens pas à l'église que je suis pas chrétien. Il y a un prédicateur qui a prêché dimanche. Il a dit clairement, ce n'est pas le fait de venir à l'église qu'on est chrétien. Alors, pasteur, si tu ne me vois pas, comprends, je suis chrétien. C'est bien, il a suivi le message. J'aimerais dire une vérité. Allez à l'église sans Jésus. Ne fais pas de vous un chrétien. Fais de vous un religieux. Mais tu ne peux pas être chrétien sans venir à l'église. Parce que j'aimerais être équilibré, je ne veux pas que quelqu'un sorte ici en disant non, c'est Benjamin qui a dit ça, pasteur. Je peux même te montrer la prédication. J'avais bien écrit. J'ai dit, venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Mais tu ne peux pas brandir l'identité chrétien si tu ne viens jamais. Dans Actes 2, verset 42, la Bible nous parle des quatre grandes activités de l'église primitive. Et la Bible dit, 1, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. C'est-à-dire, ils avaient le temps de se réunir. Ils avaient le temps de faire les kiss, la célébration. 2, dans la communion fraternelle, ils s'aidaient entre eux. 3, dans la fraction du pain, la sainte cène que nous allons faire tout à l'heure. Et 4, dans les prières, tu ne peux pas être chrétien ou me dire que tu es chrétien si tu ne viens jamais aux enseignements. Plus je lis ma Bible, plus je comprends qu'être chrétien nous donne l'obligation de venir à l'église, de nous assembler à l'église. Lisons ensemble Hébreux 10, verset 25. Plus vous attendez le retour de Christ, plus vous êtes conscient que Jésus reviendra. N'abandonnez pas vos assemblées. Que les chrétiens de dimanche, les dimanches nous avons beaucoup de chrétiens. Ils sont nombreux, mais est-ce que nous les voyons la semaine? Dis à ton voisin, n'abandonne pas ton assemblée. Plus tu attends que Jésus rentre, puisse aussi, viens à l'église, sois enseigné, apprends la parole de Dieu. La troisième chose que la chrétienté ne veut pas dire, et cette troisième chose, j'ai du mal souvent à le dire parce que moi-même je suis concerné, c'est que la chrétienté n'est pas ou ne veut pas dire le fait de servir les seigneurs. Quelqu'un peut servir Dieu et ne pas être
chrétien.
J'aime cette appellation que ma mère a l'habitude de dire. Batumingi batakuwa bilalo, les ponts. Ils sont là pour amener les âmes au Seigneur, mais eux-mêmes n'arriveront jamais dans le royaume. Paul dit, à quoi me servira-t-il de prêcher l'évangile et que moi-même je rate les royaumes. Frères et sœurs, ne soyez pas étonnés qu'au ciel vous ne voyez pas les pasteurs ou les évangélistes ou les prophètes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui prêche ou qui fait des choses pour Dieu qui est serviteur de Dieu. J'ai vu des hommes de Dieu, soi-disant chrétiens, se battre juste pour les offrandes. Et puis ça passe à la radio. Oh non, les pasteurs de telle église, ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des mercenaires dans le sang de Dieu. Des gens qui viennent se servir de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'hommes de Dieu qui se servent de Dieu. Ils se disent serviteurs, pasteurs. Je m'excuse, homme de Dieu, moi-même, j'en fais partie. Mais permettez que j'en parle. Si les choses ne marchent pas dans la société, c'est parce que les hommes de Dieu, ils se sont mécomportés. Où sont les hommes de Dieu qui disent la vérité? Où sont les hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu? Où sont les hommes de Dieu qui annoncent l'évangile de Christ? Aujourd'hui, nous venons à l'église parce qu'on a marqué quoi faire. Moi, Benjamin, je n'ai pas du travail. Je commence une tasse et je dis, venez, on commence à jouer les tam-tam. Oh non, église. Est-ce que Dieu t'a appelé? Est-ce que Dieu t'a demandé de commencer? J'aimerais dire à tout le monde, si vous avez manqué du travail, ce n'est pas dans l'œuvre de Dieu que vous aurez le travail. Je parle en tant que serviteur de Dieu. Si vous avez manqué le travail, arrêtez de venir porter des calls pastorales et dire, moi, je deviens serviteur de Dieu. Non! Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Regardez le verset 22. Quelles sont ces justifications, Seigneur? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Ils brandissent des choses qu'ils ont eu à faire. Il est possible de faire des choses pour Dieu, mais sans Dieu. J'aime souvent dire ceci. Dieu, s'il veut atteindre ses objectifs, il peut utiliser n'importe qui et n'importe quoi. Et je vais vous le démontrer dans la Bible. Dieu veut nourrir son serviteur Élie. Il a utilisé quoi? Les corbeaux. Est-ce que le corbeau c'est un animal pire? C'est un animal impur que lui-même avait interdit. Mais pourquoi Dieu fait passer par un corbeau pour nourrir à son serviteur? Il pouvait passer par le pigeon, il pouvait passer par un autre animal. Et aujourd'hui nous avons des corbeaux au-dessus de la chair. Corbeau. Ça m'a toujours étonné, je ne sais pas si vous lisez la Bible avec moi. Un prophète va maudire le peuple de Dieu. Il n'est pas en mesure de détecter la voix de Dieu que Dieu passe par une âne. L'âne commence à prophétiser quand le prophète ne sait pas prophétiser. Alors est-ce que cet âne devient serviteur de Dieu? Oui, mais il n'a aucune relation avec Dieu. Et c'est ça le problème avec les hommes de Dieu. Ils font des choses pour Dieu, mais sans aucune relation avec Dieu, tu es un corbeau. Ils prêchent par expérience, par habitude. Ça ne fait pas de vous un chrétien. Je m'excuse si un pasteur est fâché. J'ai dit ce que Dieu m'a demandé de dire. La quatrième chose, c'est que le fait d'accéder à un sacrement ne fait pas de vous un chrétien. Il y a beaucoup de gens qui pensent parce que je me suis baptisé, je deviens chrétien. Frères et sœurs, quelqu'un peut être baptisé et être païen. Parce qu'il y a des gens, je me rappelle, nous on est nés dans une famille chrétienne et comme papa était pasteur, il fallait qu'on se fasse baptiser pour avoir les habits de Noël. On s'est dit, si on ne se fait pas baptiser, on n'aura pas des habits. Parents, n'imposez jamais votre foi à votre enfant. Enseignez-lui la parole de Dieu et Dieu va les toucher et il viendra au Seigneur. Que des gens qui se sont fait baptiser, mais des païens, avec P majuscule. Qu'est-ce donc la crainteté? Que veut dire le mot chrétien? Je vais vous épargner de toute définition théologique pour vous dire le mot chrétien vient du mot grec ou du mot hébreu. Non, je vais vous donner juste une simple définition et que j'aimerais que tout le monde comprenne. Le mot chrétien veut dire tout simplement la vie. La crainteté est une vie. Il est temps où nous devons prêcher par notre qualité de vie. C'est ça la crainteté. Que les gens te regardent et qu'ils disent, c'est un chrétien. Même quand tu ne parles pas, que les gens sentent que nous avons affaire à un chrétien. Vous savez, c'est étonnant. Pierre, il est assis avec les femmes. Et une femme regarde, il dit, cet homme a été avec Jésus. Pierre dit, je vous jure, je n'ai jamais connu Jésus. La femme dit, même ta façon de parler montre que tu as été. Alors quelqu'un a dit, Pierre en mentant a pu exprimer qu'il est chrétien. Mais toi, même dans ta vérité, on ne s'est même pas senti que tu es chrétien. Pierre est en train de mentir, il dit, j'ai jamais vu ce Jésus-là. On dit, même ta façon de parler de là, ça prouve que tu es, quoi, des choses, certes. Il y a des choses qu'on ne cache jamais. Et parmi ces choses, c'est l'identité chrétienne. Le problème, c'est ça. Nous crions tous, je suis chrétien, chrétien. Mais est-ce que nous vivons la chrétienté? J'aime ce que la Bible dit dans Actes 5, verset 13, la dernière partie. Partie B. La Bible donne un témoignage sur les chrétiens, les disciples. Et écoutez le verset B, Actes 5, 13. Mais le peuple, c'est-à-dire les païens, les louaient hautement. Les disciples, quand ils passaient, les païens les voyaient et ils commençaient à les louer. Ouh, celui-là, c'est un chrétien. Est-ce que toi, quand tu passes au quartier, les gens peuvent te louer? Hein? La version bonnet de 1910 dit ceci. Mais le peuple leur donnait des grandes louanges. Quand il passait, le peuple donnait des grandes louanges. La tradition œcuménique de la Bible dit ceci. Le peuple faisait leur éloge. La parole vivante d'Alfred Quinn le dit encore mieux. Il dit, mais le peuple tout entier les tenait en haute estime et chantait leur louange. Ils étaient respectés aux yeux du peuple, respectés dans les quartiers, respectés dans les avenues. Pourquoi? Par leur style de vie. Où sont ces gens qui sont respectés? Combien de fois nous avons déshonoré nos églises à cause de toi? J'ai entendu des gens dire, si lui il va au ciel, c'est que nous irons à pied. Lui vraiment, s'il va au ciel, c'est que nous allons aller là-bas. Et nous avons beaucoup de gens comme ça dans nos églises. Ils viennent chaque dimanche, ils prient avec nous, ils chantent, ils font des choses, ils construisent. Mais est-ce que réellement vous êtes chrétien? Les fidèles de l'église primitive, ils avaient une qualité de vie supérieure. Seigneur, donne-nous des gens, des hommes et des femmes qui ont cette qualité de vie. Des hommes, quand ils se tiennent dans nos églises, on peut voir la qualité de vie. Les gens peuvent facilement dire, j'aimerais être comme lui. Des Rois, chapitre 5, verset 1. La Bible dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était le prêtre. Naaman avait trois grandes caractéristiques. Première caractéristique, il avait un rang social élevé. Il était le chef de l'armée des Syriens. Il était le général des armées. Deuxième caractéristique, en dehors du fait d'être général de l'armée, il était le bras droit de son roi, l'ami intime. Troisième caractéristique, la Bible précise clairement dans ces passages que c'est par lui que le Seigneur passait pour délivrer les Syriens. Sauf qu'il y a un problème avec la vie de Naaman. Il avait un mail. Ceux qui ont étudié dans de bonnes écoles, nous autres on a étudié dans de mauvaises écoles, ils ont vu en français grammatical. En français grammatical, on dit ceci. Quand une phrase est précédée par mais, cela veut dire que le mais annule la phrase précédente. Lisez avec moi. Chef de l'armée des Syriens, l'ami du roi, c'est par lui que le Seigneur passait. Mais, c'est trop fort. Était lépreux. Et on a des chrétiens comme ça dans nos églises. Non, ils chantent dans l'église Goma West. Mais Elle triche encore à l'école. Elle est honorable, mais...
Et quand je dis ces mais, tu connais toi-même les mais en question.
Quand on met mais, c'est pour dire, faites attention, elle est tout, sauf ce qu'elle dit.
Et nous avons beaucoup de chrétiens comme ça.
Ils viennent à Goma West, mais... Il y a d'autres qui viennent donner des offrandes pour enlever ces mets-là. Non, abandonne mon frère.
Oh non, j'ai béni Dieu, j'ai eu le travail. Mais comment as-tu eu le travail là? Toi-même tu connais, mais... Oh non, j'ai béni le Seigneur, j'ai construit la maison. Mais comment as-tu construit cette maison-là?
Corruption. L'argent qui devait entrer dans la caisse de l'État est entré dans ta poche. On se demande si c'est ta poche qui est devenue caisse.
Je vous pose la question, comment avez-vous eu ces beaux habits que vous portez aujourd'hui? On vous voit beau, resplendissant. Mais comment avez-vous eu ces beaux habits? Jeune homme, toi qui entres tous les temps sur Facebook, comment as-tu eu ces téléphones-là?
Et aujourd'hui, il faut que les mains ôtent. Je suis venu dire à quelqu'un, il faut que ces mains soient ôtées au nom de Jésus.
Aux yeux des gens, c'est un bon chrétien. Mais en coulisses, dans les quartiers, là où les gens ne les connaissent, il y a... Amen. Un jour, je reviendrai pour vous parler des biens mal acquis, comment vous vous attirez la malédiction. Un bien mal acquis, vous ne devez pas l'amener dans la maison du Seigneur. Chaque fois que vous amenez un bien mal acquis, vous vous attirez la malédiction. Amen ou pas, amen, je prêche la parole de Dieu. Je termine par ces passages. L'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe et il dit quelque chose que j'aime. Dans 2 Corinthiens 2, verset 14, il dit « Grâce soit rendue à Dieu qui a fait toujours triompher en Christ. » Et qui reprend par nous en tout lieu quoi? L'odeur de sa connaissance. Frères et sœurs, le temps est arrivé où chaque fois que nous passons, que les gens sentent l'odeur de vouloir connaître Christ. Verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ pour ceux qui sont sauvés. Et parmi ceux qui, frères et sœurs, le temps est venu où nous devons être cette bonne odeur, où nous devons exhaler les parfums de Christ, où nous devons pousser les gens à désirer Christ.
Romains 8, 19 dit ceci. Aussi la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, la révélation des fils de Dieu. Ces hommes et ces femmes qui s'appellent chrétiens, réellement qu'ils manifestent, qu'ils vivent Christ.
Tu viens à l'église, mais tu triches encore à l'école. Tu viens à l'église, mais c'est toi qui es sous à l'école. Tu écris toujours deuxième session. Oh non, les jurys n'étaient pas d'accord avec moi. Non, le problème, tu es brûlé. Seigneur, donne-nous des chrétiens, des hommes et des femmes qui manifestent la vie de Christ.